Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Eh bien, cette méditation, c'est une reprise en début du mois d'août. Pour ceux qui étaient présents, naturellement, eh bien, nous avions commencé une simple étude sur la tentation. Voilà, c'était naturellement dans les textes de référence que nous avons dans l'Évangile. Alors, nous allons poursuivre simplement. Et je voudrais, en introduction de ce nouveau volet, eh bien, commencer par le livre des Hébreux. Et là, nous avons l'exemple parfait, l'exemple total de la victoire sur la tentation. Alors, dans le livre des Hébreux, puisque nous avons un modèle qui nous vient des cieux, à savoir naturellement la personne de Jésus, eh bien, ouvrez donc votre Bible dans le livre des Hébreux au chapitre 4 et au verset 14. Ce sera une référence, ce sera tout simplement, eh bien là, une note de principe pour situer, eh bien, nous mettre tout de suite dans les conditions de la victoire. Alors voilà, Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je relève cette invitation à nous approcher dans la foi avec assurance de celui qui nous a montré le parfait exemple parce qu'il a été tenté en toute chose. Alors nous ne pouvons pas dire que le chemin n'a pas été frayé devant nous, c'est fait. Alors maintenant c'est à nous de négocier. C'est à nous de bien comprendre, c'est à nous de nous laisser nous inspirer par la parole et son esprit, et ainsi de saisir la victoire, parce que c'est fait. Nous l'avions dit précédemment, et je le répète, beaucoup, malheureusement, dans un enseignement parfois incomplet, ont pensé qu'être tenté, c'était péché. Alors, vous avez l'exemple de Jésus, hein? Il nous est dit qu'il a été tenté en toute chose sans commettre de péché. Et c'est bien là le challenge qui nous est réclamé, qui nous est proposé, parce que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, nous avons quelqu'un qui, lui, eh bien, finalement, a fait ce que nous ne pouvions pas faire et continue pour nous donner, eh bien, tout ce qui est nécessaire. Alors, à ce titre, nous allons revenir dans notre texte initial, Luc chapitre 4. Et nous allons faire le commentaire, le temps qui nous est imparti. Peut-être nous allons aborder la première et la deuxième tentation. Et nous reviendrons pour une dernière fois sur ce sujet. Nous verrons la troisième tentation et également la tentation suprême, qui est celle de Gethsémané, parce que là, c'est, nous pouvons dire, le dernier pas d'un oui ou d'un non de Jésus. Hein. Alors, nous savons la réponse qu'il a donnée. Alors, voilà. Nous reprenons Luc, chapitre 4, et simplement pour retrouver les traces de la fois précédente, nous avions lu, je crois, les deux premiers versets. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Voilà, je crois que nous étions arrêtés là. Et nous allons naturellement voir, eh bien, la nature même des tentations auxquelles Jésus a été exposé, soumis. La première tentation est la suivante. Il a été tenté donc pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà, ça c'est la première exposition à une tentation d'un caractère tout à fait particulier. Elle est d'ordre physique. Visiblement, eh bien, nous comprenons ce que ça veut dire dans les simples mots qui nous sont donnés. C'est celle qui correspond à nos besoins naturels. N'oublions pas, nous sommes des hommes renfermés dans un corps. Nous sommes des êtres dans la corporalité. Alors, il y a tant de besoins. Il y a énormément de choses dans notre vie d'homme sur cette terre. De besoins, d'aspirations, de nécessités, d'envie, de stimuli, de tentations, de convoitises, enfin toutes sortes de choses. Et elle est exposée visiblement dans le texte de Luc en premier. Et nous voyons que dans la création, Dieu a pourvu l'homme d'un corps. Et il est légitime. Retenez bien le mot légitime. Il est important parce qu'on le retrouvera. Il est légitime que ce corps que Dieu a formé à l'homme soit entretenu et satisfait. Voilà. Nous verrons quelles en sont les implications, mais en tous les cas, Dieu est un Dieu bon qui a renfermé sa créature humaine dans, eh bien, la matière. Et le Seigneur n'a pas fait la moitié des choses. Un homme a des appétits, il a des besoins, il a des nécessités, parce qu'autrement, eh bien, la vie ne peut pas aller plus loin naturellement. Alors, on comprend que dans cette légitimité, il y a quelque chose de tout à fait particulier, parce que celui qui a lancé dans la carrière de l'existence, dans le souffle, finalement, de ce monde, eh bien, a donné aussi à l'entretien, a pourvu à l'entretien et à la satisfaction. Alors, nous avons lu, et je le relis à dessein, il nous est dit que Jésus ne mangea rien durant 40 jours. Je ne sais pas, mais il me semble que ça fait quand même beaucoup pour le commun des mortels. Même avec une bonne cure d'amaigrissement, quelles sont les motivations qui pourraient peut-être nous pousser à cela. Mais toujours est-il qu'il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que le chiffre 40 est quand même révélateur dans l'histoire biblique et a un sens. C'est le caractère finalement de la mise à l'épreuve. Oui, 40 ans dans le désert, 40 jours ici, on a d'autres exemples qui ne me viennent pas en mémoire, mais en tous les cas, eh bien, il ne s'est aucunement substanté pendant tous ces jours. Alors, 40 jours, c'est 48 aussi, Je pense pas qu'on avait inventé le système du ramadan. Enfin, bon, toujours est-il que c'était jour et nuit. Et ça fait long, Et déjà, quand on est un petit peu en déficit de nourriture pendant quelques jours, soit à cause de la maladie ou d'autres situations, le corps réclame à ce moment-là, il crie, et on en perd un petit peu l'équilibre, on n'est pas bien. Alors imaginez-vous un peu cela. C'est quand même à réfléchir. Donc, il n'a rien mangé pendant tous ces jours-là. Et c'est quand même assez curieux parce que la façon de la phrase est tournée, pendant 40 jours, donc sans manger, et après que ces jours furent écoulés, il a eu faim. On dirait que c'est tout à fait logique. On aurait peut-être été beaucoup plus tenté par la faim auparavant et avant. Mais il semble qu'il y a eu peut-être quelque chose, puisque c'est au terme, nous est-il dit, alors il a eu faim. Peut-être pouvons-nous penser décemment que Jésus était tellement absorbé par la dimension spirituelle. Il faut le croire. Et vous avez, nous l'avions dit, mais je le répète ce matin, c'était pas un accident qu'il l'a conduit dans le désert. Il nous a dit qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Donc c'était tout à fait dans la volonté de Dieu. Et ça c'est important parce que quelquefois il y a des situations qui peuvent nous étonner en disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur ?» Ne vous étonnez pas comme d'être d'une fournaise ardente, nous dit l'apôtre, parce qu'il y a des situations, eh bien, qui sont là au-delà de notre compréhension, et c'est peut-être là où nous nous faisons du mal lorsque nous essayons de comprendre l'incompréhensible. Mais toujours est-il que on peut présumer que Jésus, donc, était là absorbé par cette vie de l'esprit qui était sur lui. Alors, naturellement, quand Dieu parle, il y en a un autre qui parle aussi. Et le diable, nous rapporte Luc, est venu vers lui et lui a dit « Mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre, ou à ces pierres, singulier, pluriel, peu importe, à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Vous savez, ça rappelle un petit peu, et il y a les vieilles émanations du jardin d'Éden, vous savez, vous connaissez, hein, chapitre 3, verset 1er, chapitre 3, quand il nous est parlé du serpent, hein, c'est une image feutrée là, hein, et il nous est dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux, et il est venu d'une manière tellement habile, subtile, vers Ève, et lui a dit, mais est-ce que Dieu aurait réellement dit? Oui. Les premiers éléments du poison, du doute, de l'incrédulité, de mettre en pièces, finalement, eh bien, ce que Dieu avait, dont Dieu avait rempli le cœur de l'homme pour qu'il n'y ait que la confiance, que l'amour et que tout ce qui pouvait être finalement au bénéfice de cette créature naissante, en quelque sorte. Alors, vous voyez, c'est un petit peu cet élément qui arrive comme cela et si tu es le Fils de Dieu, alors, ça doit être un problème pour toi, puisque tu es le Fils de Dieu. C'est à ce moment-là que le besoin de nourriture se réveille chez Jésus. Et semble-t-il, dans l'expression qui nous est donnée, ça se réveille violemment. Vous savez, quelquefois on sent peut-être la faim qui arrive au fur et à mesure, et puis plus ça va. Hein, mais là, c'est quand même assez brutal. Jésus s'est senti, et on peut le comprendre naturellement, il s'est senti alors dans un état profond d'accablement, épuisé, en proie à la défaillance. Ce qui est tout à fait logique et compréhensible. Oui. Ce qu'il a ressenti comme quelque chose qui, vraiment, nous sommes exposés sans faire un jeûne. Mais parfois, il y a des situations comme ça qui nous mettent en configuration avec je ne sais quoi, je ne sais quelle chose incompréhensible, peut-être dans le monde invisible. Vous savez que l'histoire de Job nous est rappelée pour nous montrer que nous ne voyons pas tout, mais qu'il y a dans les lieux célestes un combat qui se livre. Alors, il faut aussi avoir le discernement, pourrait-on dire le discernement des esprits. Et parfois, ne pas s'en prendre à Dieu parce que nous ne comprenons pas la règle, et je le répète ce matin à dessein, la règle, ce n'est pas de comprendre pour croire, mais c'est de croire sans comprendre et ensuite nous allons comprendre. Et de laisser faire à Dieu l'œuvre qu'il a à faire. Comme Jésus le dira à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Mais nous sommes faits ainsi. C'est comme si cela allait nous aider. Eh bien, de dire, eh bien, tu sais, Seigneur, je vivrais mieux la situation si tu me levais un petit coin du voile de ce qui se passe dans ma vie. Et peut-être que là, ça irait mieux. Je pourrais te faire davantage confiance. Je voudrais quand même vous dire que l'intelligence de l'homme n'a pas été épargnée dans la chute. Hein. La tête, notre raisonnement, nos analyses, nos déductions. Ben, vous savez que ça nous joue quand même des drôles de mauvais tours. Hein. Parce que la foi, c'est une autre dimension, naturellement. Alors, nous voyons que Jésus va être plongé donc dans cet accablement, tout à fait logique, compréhensible, et je dirais que même une défaillance mortelle au bout de, quasiment mortelle en tous les cas, au bout de 40 jours. Et nous nous apercevons que c'est le moment propice où Satan accourt. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, Jésus a fait face à l'adversaire, hein, les yeux dans les yeux, nous pourrions dire. Mais quelque part, en ce qui nous concerne, dans des situations non choisies, où nous sommes précipités, malgré nous, nous faisons face à un ennemi qui est invisible. Et c'est souvent dans nos états de faiblesse qu'il nous prend à partie. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est qu'autant que cela, autant que faire se peut, autant que cela vous est possible, ne vous exposez pas à la faiblesse, ou aux faiblesses. C'est pour ça que je reviens sur la note sur le jeûne. Faisons attention. Si c'est Dieu qui nous conduit dans le jeûne, alors que son nom soit béni. Mais si c'est avec nos propres moyens, par décret de ceci et cela, de dire « Seigneur, je voudrais te plaire, alors je vais t'offrir ceci et cela », et si c'est pour obtenir quelque chose, écoutez, je vous recommande de bien veiller à ce que le Seigneur vous accompagne et que ce soit lui qui vous y conduise. Parce que vous pouvez vous mettre dans une situation d'extrême faiblesse, et là, attendez-vous à avoir une attaque en règle. Bon, le Seigneur délivre, parce que nous sommes ses enfants. Mais quand même, soyons prudents, soyons sages. Ça, vous le savez. Je le répète. Alors, c'est le moment où Satan accourt et le diable lui dit. Vous savez que Dieu nous dit beaucoup de choses, mais l'adversaire nous dit aussi des choses. Et souvent, en contradiction avec ce que Dieu nous dit. Et si nous ne sommes pas finalement en capacité de pouvoir réagir spirituellement à cause d'un affaiblissement, où nous nous sommes mis nous-mêmes dans une situation de difficulté, peut-être que nous allons avoir du mal à décoder, parce que vous savez que quand le diable parle, il se déguise en ange de lumière. Alors, faisons attention, il est plus malin que nous. Alors, c'est la tentation qui s'ouvre à Jésus par la souffrance et la privation. Ce sont des mots qui font frémir tous les humains. La souffrance, on la répudie. Et puis, la privation, c'est pareil. C'est le manque. Et combien dans notre vie y a-t-il de manque en tant qu'homme? Eh oui, au ciel, ce sera la plénitude et nous serons comblés. Mais ici-bas, eh bien, il y aura toujours quelque chose qui nous manquera. Jésus le dira à ce jeune homme riche, il te manque encore une chose. Et je pense que ça fait partie de notre condition humaine, tout simplement. Si chacun d'entre nous réfléchissons à ce qui nous manque, eh bien, on peut faire, certainement, on pourra dire beaucoup de choses, on pourra en discuter, c'est certain. Mais est-ce que véritablement le manque doit devenir une obsession pour nous et nous rendre malades, puisque nous avons tout en Jésus-Christ? Et ça, c'est quand même important peut-être d'y réfléchir, parce que parfois il y a des enfants de Dieu, à cause de ce manque, cette privation qui génère une souffrance, eh bien ils n'arrivent plus à vivre. Ils n'arrivent même plus à vivre leur vie chrétienne, ils n'arrivent même plus à assumer leur vie chrétienne, alors que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et que la joie doit finalement, eh bien là, être notre propre. Cette foi et tant de choses semblables. Le cadre est bien choisi pour l'attaque de Satan parce que la situation se passe dans le désert du dénuement. En principe, un désert, il n'y a pas grand monde. Parce qu'il fait chaud, parce que bon, il n'y a pas trop de distractions, il n'y a pas trop d'intérêt, à moins que vous alliez faire un puits de pétrole, ça marche. Mais bon, mis à part ça, c'est le désert du dénuement, naturellement. Et parfois, eh bien, Dieu va nous conduire dans des situations de vide, de dépouillement. Non pas qu'il trouve un plaisir à le faire, mais parce que ça fait partie de notre école. Je le conduirai, nous dit le prophète. Dieu lui dit au prophète de dire à Israël, je le conduirai ou je la conduirai dans le désert et je parlerai là à son cœur. Alors ne soyons pas déconcertés si parfois, après des périodes de faste, des périodes où nous avons été soulevés par la grâce de Dieu, eh bien nous passions dans des phases où c'est beaucoup plus calme, où le vent ne souffle pas. Et que, bien, nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, sachez que si vous en connaissez pas les raisons, Dieu, lui, sait pourquoi. Et là encore, faisons attention de ne pas faire marcher notre intelligence et nos réflexions uniquement dans un sens négatif pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le désert du dénuement qui est présenté. Et là, dans ce désert-là, tout fait défaut. Pour ceux qui ont été en Israël, si vous allez faire un petit tour du côté du désert de Juda, vous verrez, c'est jaune. Et c'est partout pareil. On ne peut pas dire que c'est le Mont Blanc non plus. Mais c'est assez austère. Et il y a des gens qui se perdent. Il y a des gens qui meurent, j'entendais parler de ça. Vraiment qui s'égare, sorti de la quatre voies, là, qui s'en va, qui descend sur la mer morte. Eh bien, si vous faites quelques pas, peut-être, et là, vous allez plus vous reconnaître parce que tout est pareil. Et c'est assez austère, c'est sinistre même. Alors, c'est vrai, dans cet endroit-là, tout fait défaut, et on a l'impression que Dieu semble si loin de nous. Ça nous est certainement arrivé dans des changements de situation, ou des choses qui viennent brutalement, ou des choses qui viennent sans que nous nous apercevions d'une manière imperceptible, où nous sommes conduits, et nous avons le sentiment de glisser. Et là, Dieu n'est plus là, mais Dieu est toujours là. C'est la foi qui va faire la différence. Parce que ce n'est pas le visible, ce n'est pas le sensible, c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je goûte ou ce que je touche. Parce que là, c'est la dimension tout à fait, eh bien, humaine. Mais c'est ma foi et ma conviction à l'intérieur. Je ne vois pas, mais le Seigneur est toujours là. Dieu est invisible, mais lui, en tous les cas, il me voit. Alors, on a toutes ces données autour de cette réflexion. Et nous allons maintenant brièvement examiner la manœuvre du diable sur la première tentation. Premièrement, c'est une parole. Ouais. C'est pas une parole créatrice, c'est une parole destructrice. Parce qu'il ne peut pas venir d'autre chose, hein. Ça ne peut pas avoir d'autre sens. Si tu es le Fils de Dieu, il y a la condition d'abord. C'est pas l'affirmation, puisque tu es le Fils de Dieu, parce que tu es le Fils de Dieu, mais si tu es le Fils de Dieu, c'est toujours le même remake de Genèse chapitre 3, verset 1er. Dieu aurait tellement dit. Et pour nous, si nous faisons une transposition par rapport à nous, ça c'était pour Jésus, le diable vient d'une manière très subtile et maligne. Et il nous dit, mais si tu es un enfant de Dieu, allez, est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question, quelquefois, d'avoir douté que vous étiez des enfants de Dieu? Pas dans les moments de bonheur et d'élévation, hein, quand tout va bien, il n'y a aucun problème. Hein, mais que parfois, dans les moments de difficulté, dans la maladie, qui n'en finit pas, dans l'accident qui vous surprend, à travers toutes sortes de circonstances où on se dit, mais peut-être que... Alors d'abord, la première réaction, c'est, j'ai certainement fait quelque chose de mal. J'ai certainement péché, j'ai certainement fait des choses horribles. Et je doute à un moment donné de mon salut. Mais écoutez, frères et sœurs, vous n'avez pas à douter de votre salut. Il n'y a pas à en douter. Vous êtes des enfants de Dieu, votre Père Céleste. Il vous a pris en main. Et il ne va pas vous lâcher comme ça. Dieu ne nous a pas appelés pour nous lâcher. Peut-être va-t-il nous faire conduire dans une école. Ça, c'est forcément probable. Mais néanmoins, il reste votre Père. Et c'est pour ça que je suis toujours surpris de la crainte qu'il y a encore dans le fond des cœurs des enfants de Dieu après 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans de conversion. Mes frères et mes sœurs, vous apportez nos seigneurs, non? Ben, vous en avez pas l'air d'être convaincus pour la réponse que vous me donnez, hein. Il va falloir revoir tout ça, hein. Non, mais c'est un petit clin d'œil que je vous fais, parce que je sais qu'au fond de votre cœur, vous y croyez, parce qu'autrement, vous ne seriez pas là ce matin. Qu'est-ce que vous seriez venu faire ce matin? Vous aimez le Seigneur, et il vous aime, et c'est parce qu'il vous aime qu'il ne va pas vous lâcher. Alors, si tu es un enfant de Dieu, ça c'est la parole du diable, hein, si tu es un enfant de Dieu. Et pour Jésus, Satan fait allusion précisément à la déclaration divine du baptême qui vient juste d'avoir lieu. Et Dieu avait dit, au moment où Jésus est descendu dans les eaux, a été baptisé, là, dans la présence de Jean-Baptiste, la colombe est venue sur Jésus, et il y a une voix qui s'est fait entendre, et il est dit ceci, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà. C'était par rapport à cette déclaration que le diable attaque. Hein. C'est pour ça qu'il dit, mais si tu es le Fils de Dieu. Et Dieu déclare, mais tu es mon Fils bien-aimé. Ne soyez pas étonnés, tout ce que Dieu vous promet, tout ce que Dieu vous dit, ce que vous serrez dans votre cœur, les convictions et les assurances qui sont en vous, le diable va les discuter. Hein. Mais attendez, quelle voix vous allez entendre? Réconfortez-vous et confortez-vous dans ce que vous avez entendu de Dieu, mais ne croyez pas aux mensonges. Parce qu'il est très subtil le mensonge, et nous sommes tous passés d'une manière ou d'une autre par ce crible. Qui allons-nous écouter? Et ça c'est permanent, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Et il faut bien dire que nous nous troublons beaucoup avec tout ça. Et oui, parce que nous sommes finalement dans cette condition humaine. Ça voulait dire en quelque sorte, maintenant, je paraphrase ce que le diable pouvait dire à Jésus, maintenant, puisque tu es assuré d'être... le Fils de Dieu, mettre en doute comme pour nous, ça pourrait vouloir dire, puisque tu crois que tu es un protégé de ton Dieu, avec un peu d'ironie quand même dans la phrase, alors pourquoi supportes-tu la privation et la souffrance? Ton Dieu d'amour te laisse tomber, il te laisse manquer, il te laisse souffrir, il t'abandonne. Et ça, ce genre de choses, nous l'avons maintes et maintes fois attendu dans ce raisonnement. Et il y a tellement cette proximité entre la voix de Dieu et la voix du diable dans nos âmes que quelquefois on se dit « mais c'est moi ». Oui, c'est moi. On est quelquefois, on ne sait plus tellement où on en est rendu. On en est, où on en est rendu, bien sûr. Alors voilà la réflexion. Puisque nous sommes des élus, nous sommes des rachetés. Le Seigneur nous a pris en charge. Il est notre Père Céleste. Nous sommes ses enfants. Et la voix qui se fait entendre, puisque tu es tout ça, eh ben on va mettre ça à l'épreuve, on va voir un petit peu où tu en es rendu. Alors, tu devrais te révolter, hein, parce que 40 jours sans manger, c'est quand même pas humain. Hein. Et c'est vrai que c'est pas humain. Pourquoi tu supportes la privation? Pourquoi, eh bien, finalement, tu encaisses sans rien dire, tu devrais finalement manifester que tu as une personnalité. Prends ton indépendance, ça suffit comme ça. Regarde ton Dieu, il fait rien du tout pour toi. Il te laisse moisir dans des souffrances. Regarde ton arthrose. Enfin, on la regarde pas, on la sent. On la ressent particulièrement. Et tu traînes dans des problèmes qui n'en finissent pas, et ceci et cela, alors? Ah, tu parles d'un Dieu d'amour, hein. Tu me parles de ton Créateur, bien dis donc, hein. Il est pas forcément sympathique avec toi. Hein. Et pourtant, il te laisse manquer. Il t'abandonne, c'est le mot. Hein. Pourtant, vous avez des paroles dans la Bible. Hein. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Voilà. Et puis tant d'autres. Hein. Moi, je lis le livre du prophète Ésaïe, par exemple, 40, 42, puis tout ce que vous voudrez, les chapitres. Hein. Eh bien, c'est quelque chose de formidable. Ça nous racénère. Ça nous donne des forces. Alors, l'application pratique de justement cette mise en exercice, eh bien, l'application pratique, ça peut être justement des maladies qui n'en finissent pas. On pourrait peut-être parler de maladies chroniques. Et il y en a dans le peuple de Dieu, il y en a dans le monde. Et de dire, mais j'ai prié, Seigneur. Si je me souviens de Paul qui dit, mais j'ai prié trois fois. Alors, je veux bien croire qu'il a prié trois fois, mais moi, je pense qu'il a prié certainement plus que trois fois. Mais c'était simplement pour montrer une totalité, enfin, en tous les cas, un désir ardent et fervent de retrouver la santé pour Paul, de pouvoir, eh bien, assumer son ministère. Enfin, peu importe le chiffre. Mais toujours est-il que Dieu va lui répondre. Il lui dira, mais oui, c'est vrai, j'ai bien entendu ta prière parce que Dieu entend les prières. N'allez pas penser qu'il n'écoute pas. Donc il les entend. Et comme le Jean nous le dit, si nous savons qu'il nous écoute, eh bien nous avons la chose que nous lui avons demandée parce que finalement, eh bien, il est attentif et il est là, le dispensateur de ce que nous attendons, ce que nous espérons recevoir de lui. Ça peut être la maladie. Il y a tant de choses. Hein. Vous savez, nous sommes dans une société de difficultés, je pense aux jeunes et aux moins jeunes. Quand vous attendez 6 mois, 1 an, 1 an et demi avant d'avoir du travail, on dit « Mais Seigneur, pourtant tu m'as appris à te demander, donne-nous le pain quotidien. » Ben moi, le pain quotidien, pour l'instant, c'est pas mon patron qui me le donne, c'est pas mon travail en tous les cas, mais c'est la CEDIC. C'est pas, on se sent pas toujours très à l'aise et on peut le comprendre. Et puis, c'est pas une honte d'avoir perdu son travail. Hein. D'autres diront, peut-être pour des plus ou des moins jeunes, mais Seigneur, moi je voudrais bien faire ma vie avec quelqu'un qui m'aime et que je pourrais aimer aussi. C'est ce qu'on appelle finalement les souffrances de la solitude, du célibat. Ça c'est un problème, et un problème dont on ne prend pas toujours toute la mesure, parce que il y a beaucoup de souffrances en cela. Seigneur, je t'ai prié. Tu as mis dans mon cœur une promesse qu'un jour, je réaliserai véritablement ce pourquoi tu m'as créé, pour fonder une famille, pour pouvoir me réjouir, pour pouvoir connaître le bonheur, ce bonheur-là. Alors il y a des manques, il y a des privations, il y a toutes sortes de choses semblables. Que dirais-je encore? Il y a tant de choses qui nous manquent, tant de choses que nous pourrions aspirer, que nous désirons, et qui pourtant sont légitimes. Elles sont totalement légitimes. Et c'est là ce qui fait que je ne comprends plus. Parce que c'est légitime, mais Seigneur, tu devrais me le donner. Oui. Ça ne veut pas dire que quand Dieu ne répond pas, il est dit oui. Ça ne veut pas dire qu'il est dit non. Ça veut peut-être dire de dire, eh bien, écoute, attends un petit peu, parce que je suis en train de préparer quelque chose qui va t'étonner, qui va t'éblouir, qui va t'émerveiller, parce que je te donnerai le meilleur. Toi, tu penses à une chose, tu penses que c'est bon, mais moi, je ne veux pas te donner ce qui est bon, je vais te donner le next plus ultra. Et Dieu se glorifie finalement à nous donner toujours au-dessus de ce que nous lui demandons. Alors, il y a le problème. Ce problème est là. Et le diable dit, oh bah, tu sais, tu vas rester malade longtemps. Si ça peut vous encourager, il y en avait quand même un qui était assis auprès de la piscine de Bethesda, il a attendu 38 ans. Ça va? Non, non, mais rassurez-vous, non, non, ça va venir avant, vous ne t'inquiétez pas. Moi, je n'ai qu'une parole d'homme, mais en tous les cas, pendant ce temps-là, faites grandir votre foi. Et bénissez le Seigneur. Parce que là, et vous n'allez pas rester stérile pendant ce temps-là, parce que c'est peut-être le sentiment que l'on a. On ne vit plus, on est complètement là inerte, on est statique. Écoutez, le Seigneur connaît tout, et moi je voudrais vous encourager ce matin. Le Seigneur est près de vous, il a bien entendu votre demande, mais vous êtes peut-être dans le désert du dénuement. C'est possible. Alors ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Vous avez de bonnes dents? Les dentiers sont à proscrire. Ah oui. Vous savez, c'est cynique, là, hein, cette proposition. Par le moyen de la faim, de nos indigences et de nos pauvretés dans un domaine ou dans un autre, toujours dans le cadre physique, le diable voulait pousser Jésus à renoncer. Écoutez bien, parce que c'est la clé. À renoncer à la voie humble et soumise dans laquelle il avait marché jusqu'alors pour recourir à quelques moyens arbitraires de soulagement et s'extraire de la souffrance. Vous voulez que je vous redise ça? Tout un message, hein? Ouais. Il avait mis dans une condition de souffrance le diable, Jésus. Et à travers d'une manière subtile, il avait voulu pousser Jésus à sortir de la voie dans laquelle il s'était toujours soumis à son Père Céleste depuis toujours. Et juste avant de rentrer dans son ministère unique, alors c'était tout simplement de l'amener d'une manière véhémente, colérique peut-être, de sortir de cette humble, de cette humilité, et de dire à Jésus, dis donc, il n'y a pas qu'un moyen. Le problème, il est là, hein, pour un chrétien. Il n'y a pas qu'un moyen, mais tu sais, tu vas prendre position d'une manière déterminée, arbitrairement. Eh bien, moi, si tu veux, de la souffrance de la faim, je vais te faire sortir. Alors, tu vois, ces pierres, il y en a quelques-unes, hein, en Palestine, des pierres, il y en a quelques-unes. Hein. Et de dire, eh bien, voilà, puisque tu es le Fils de Dieu, toujours supposé, hein. Alors à ce moment-là, eh bien, tu prends une pierre et tu vas voir, lui, le Seigneur, qui, quelque temps plus tard, a multiplié les pains et les poissons. Sortir du plan de Dieu quand on souffre, c'est pas facile, assurément. Quand on est mal dans notre peau, en état de dépression, c'est terrible, la déprime, le désespoir, l'angoisse. On dit, mais Seigneur, vous savez ce qu'on dit? Même chez les enfants de Dieu, je voudrais mourir. Oui. C'est pas que moi qui le dis, hein, j'espère. Hein. Moi, quelquefois, il m'est arrivé des situations en disant, mais Seigneur, tu prends ce que je serais mieux encore avec toi. Ouais. Ce sentiment que nous avons, sortir du plan de Dieu. Et pour sortir du plan de Dieu, le raisonnement est le suivant. Toujours dans la bouche de l'adversaire, ne te laisse pas manquer. Puisque Dieu ne fait rien. Regarde, tu comptais sur Dieu, il n'a rien fait pour toi, alors tu vas quand même pas rester comme ça, tu vas pourvoir finalement toi-même, tu vas t'en sortir, tu prends ta cause en main et tu agis, alors que le principe de la foi, si moi j'agis, Dieu ne fait rien, et si moi je lui fais confiance et je m'en remets, je m'abandonne entre ses mains, c'est lui qui va tout faire. C'est ça le principe. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Seigneur, je me repose en toi, je me confie en toi. Je ne regarde pas trop à moi-même parce que finalement, que je me sente ou non capable de faire quelque chose pour m'extraire de ma souffrance, en tous les cas, c'est toi qui vas me faire sortir par la voie royale. Et c'est ça ce que je veux. Je ne veux pas autre chose. Parce que non seulement Dieu sera glorifié, mais nous-mêmes, quelle expérience magnifique allons-nous faire? On est passé par ce genre de choses. Et heureusement qu'on a attendu. Heureusement que Dieu nous a fait grâce pour pas nous envoler et puis exploser, hein. Parce que quand on a vu le résultat, des années après, on se dit, mais Seigneur, quand je me souviens de ce temps, de cette époque difficile de ma vie, mais tu as été merveilleux, non seulement tu nous as donné, mais tu nous as transporté, tu nous as porté. Et on en garde aujourd'hui quelque chose qui nous fortifie pour les épreuves de maintenant et les épreuves à venir. Hein. C'est pas pour rien par lequel, les chemins par lesquels nous passons, naturellement. Alors, ce raisonnement, donc, puisque Dieu ne fait rien, tu fais les choses. Et ça, c'est le piège des impatients. C'est le piège des découragés. C'est le piège des chrétiens qui baissent les bras, qui, après bien avoir entendu l'évangile et puis s'être rempli finalement, eh bien, de toute la connaissance que de la volonté de Dieu, à un moment donné, et vous savez, le diable, il est passé expert de nous user. Hein. Il fait durer le temps, il traîne, il tire. Vous savez, comme quand on est en train de détricoter un tricot. Avec délectation, il enlève fil après fil, ça vous fait mal à chaque fois. Et ça traîne dans le temps. Et ça n'en finit pas, et ceci et cela, et à chaque fois on crie, on crie, on crie. Parce que le diable, il est méchant. Il n'est pas seulement malin, mais il est méchant et il est pervers. C'est pour ça que nous sommes quelquefois soumis à des choses semblables. Et nous disons, mais Seigneur, j'aimerais que ce soit tellement autrement. Ne vous découragez pas, frères et sœurs, et ne soyez pas impatients, parce que là, vous connaissez le principe, hein, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, et il y en a un qui, à la fin, se frotte les mains en disant « j'ai réussi à le faire sortir de sa situation ». C'est la tentation du doute et de l'incrédulité. C'est manifester visiblement qu'on ne supporte plus l'épreuve. Et à ce moment-là, nous ne faisons plus la volonté de Dieu, nous faisons la volonté, notre propre volonté. Et finalement, en dernier ressort, nous faisons quand même la volonté et la satisfaction du diable. Tout simplement. La victoire dans cette forme de tentation consiste non à arracher ou à supprimer la souffrance, mais à trouver la force de s'en remettre totalement, complètement à Dieu, et d'attendre son secours sans rien changer à notre vie. Tu vois, ces pierres, eh bien, ces pierres resteront des pierres, je ne veux pas en faire du pain. Ou dans d'autres situations, eh bien, voilà, Seigneur, tu m'as fait une promesse au fond du cœur que tu me délivrerais, que tu vas me donner selon mes espérances, parce que cette espérance, elle n'est pas née de moi-même, c'est toi qui l'as mis dans mon cœur. Et je veux avoir la force d'attendre, c'est l'histoire d'Habacuc, c'est l'histoire de Job, tout ça. Je me réjouirai encore en l'Éternel. Ouais, même s'il n'y a plus, eh bien là, dans les champs, ceci, s'il n'y a plus cela, etc. Parce que Dieu est mon secours et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et ça, c'est quelque chose de magnifique et de formidable. Ça s'appelle rester fidèle. Vous savez, nous vivons une époque où il y a quand même pas mal de facilité, où nous avons une liberté de conscience, mais quand même, il faut rappeler l'histoire. Vous savez, il y a eu des hommes et des femmes avant nous qui nous ont légué un trésor formidable, la Bible. Je peux vous dire, ils en ont vu de toutes les couleurs. Ils ont été traités comme, est-ce qu'il y aurait un mot pour dire les souffrances de tous ces huguenots, de tous ces protestants, de tous ces hommes d'une manière ou d'une autre qui ont voulu garder au fond de leur cœur, eh bien, la foi en Jésus-Christ, pouvoir avoir et conserver dans leur maison une Bible, pouvoir la lire et la lire à leur famille et la faire connaître aux autres. Je peux vous dire que le prix était cher, hein. Le prix était extrêmement, ils sont restés fidèles. Résister. Connaissez Marie Durand, naturellement. Le repos de la foi, parce que la contrepartie, c'est de rester en paix dans la foi. Jésus nous en fournit la preuve. Il ne change pas la pierre en pain. Toute sa vie, son ministère, ses besoins d'homme, ses souffrances, ses humiliations proclament sa dépendance entière et totale de Dieu. C'est pour ça qu'il était tenté en toute chose sans commettre de péché. Nous avons un parfait sauveur. Ouais. C'est pas comme dans la mythologie des civilisations antiques où les dieux descendaient visiblement sur la terre des hommes. Ça, tout ça, ce sont des légendes et des contes. Ouais. Des dieux. Bien que Jésus soit Dieu, il est descendu comme un simple homme pour nous montrer la voie que nous avons à suivre pour monter au ciel. Il a vaincu, en rejetant en restant dans la position dans laquelle Dieu l'avait placé, il n'y avait qu'une chose, c'était d'attendre le secours de Dieu. Deuxième tentation. On va lire les versets qui suivent, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Première tentation, caractère physique, on en a parlé. Quand l'oppression par la douleur n'a pas eu ses résultats escomptés, c'est la séduction qui se met en route. Toutes les histoires de l'Ancien Testament, c'est ça. Le diable attaque Israël tant par la guerre ou alors par les séductions des faux dieux, etc. La séduction, si le premier tentative n'a pas eu son résultat, en tous les cas, elle peut avoir son résultat. Jésus vient d'être déclaré par Dieu le Messie, Fils bien-aimé. On l'a vu il y a un instant. À qui et auquel Fils Dieu lui a promis le règne, la domination et la puissance. C'est une aspiration absolument légitime. Oui, c'était légitime. Il était le Fils de Dieu et Dieu lui avait fait la promesse de régner. Il était roi. Un roi méprisé, mais un roi quand même. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est légitime. Et vous savez qu'il est tout à fait légitime pour les chrétiens parce que nous allons régner aussi dans le ciel avec Jésus-Christ. Hein. Est-ce que vous l'auriez oublié, ça? Hein? N'essayez pas de faire des petits entraînements maintenant sur la terre, hein, parce que vous risquez d'être battu aux élections. Mais toujours est-il que nous sommes promus à régner dans l'univers entier avec Christ. Et il partageait sa gloire. C'est légitime. Alors, tout cela, cette légitimité, eh bien, pouvait pousser Jésus à s'élancer, finalement, par lui-même, dans un avenir glorieux. Et le diable savait. La tentation n'est pas tant de dissuader Jésus d'atteindre ce but, parce qu'il va l'atteindre quand même, mais plutôt de le faire dévier de la voie tracé par Dieu pour, eh bien là, accomplir cette destination glorieuse. C'est-à-dire, amener Jésus à être confondu par les moyens d'y parvenir. Tous les chemins mènent à Rome, hein? Mais attention, on peut le dire de cette manière. Cette tentation a un caractère moral, elle se passe dans notre âme, dans notre cœur, dans nos sentiments, dans ce qui est invisible, mais ça se passe quand même. Je voudrais faire une remarque, je l'ai déjà dit, c'est que tout enfant de Dieu a de grandes perspectives devant lui. Nous le chantons dans nos cantiques, nous nous réjouissons de la gloire qui nous attend, ça c'est sûr. Et nous sommes dans un cadre de bénédiction immense, déjà ici-bas, dans une certaine mesure, mais de l'autre côté. Et nous avons toutes sortes de promesses qui nous ont été données par notre Père Céleste, et puis également dans une élévation à atteindre, pour enfin, eh bien là, être ce que Dieu a choisi pour nous. Nous sommes des élus pour l'instant, mais il y aura quelque chose. La question à ce propos est de servir et de savoir comment et par quels moyens nous allons atteindre tout cela. Le cadre évocateur de cette deuxième tentation, c'est une haute montagne sur laquelle le diable va élever Jésus. Jésus la vivra, ça. Il le vivra lorsqu'au moment de la transfiguration, mais ça c'est Dieu. Là, c'est une mise en condition pour essayer de le faire détourner, de le détourner. Le diable, nous dit le texte, l'ayant élevé, lui montra, tous les royaumes de la terre, cette puissance, ceci et cela. Et il lui dit en substance, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes-là, et il y a un « si ». Et rien n'est gratuit, hein ? Si, une condition, si tu te prosternes et m'adores. » Je voudrais dire à ce moment de notre méditation que, croyez bien, Jésus a refusé. Il appartient aux enfants de Dieu, spirituels, de le refuser. Mais il y a eu dans l'histoire de l'humanité des millions et des millions et des millions d'hommes épris d'orgueil, de gloire, de puissance, qui ont bien compris le système du diable. Dans bien des domaines. Je ne sais pas si je dois le dire parce que je vais peut-être finir en prison, mais quand même, notre monde y gît dans le malin, d'accord? Mais il gît pas pour rien, parce que il y en a qui sont peut-être en souffrance dans ce monde, des milliards probablement, mais il y en a d'autres qui sont non pas dans les sous-bassements de la tour de Babel, mais qui sont complètement en haut, vous savez, ils règnent en haut. Et ils font la pluie et le beau temps, la mode, la politique, les arts, le succès, les talents, etc., l'admiration, l'adoration. Parce que les idoles aujourd'hui, elles existent, hein. Oh, c'est plus le veau d'or, voilà, que l'on met sur un chariot et choses comme ça. Non, non, c'est pas celui-là. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Et quand on voit l'engouement, finalement, du monde pour ces idoles, on se dit, mais Seigneur, c'est terrible, hein. C'est effrayant d'ailleurs, hein. Effrayant! L'homme qui s'adore lui-même, ou qui adore son semblable, c'est terrible. Et ils ont bien compris, tous ces gens-là, probablement, qu'il y avait probablement quelque chose de très intéressant dans cette vie, sur cette terre, et qu'on pouvait les chercher quelque part. Vous savez, l'occultisme, ça n'existe pas pour rien, c'est pas hein, la magie et puis toutes sortes de choses. Les tractations, les pactes, c'est effrayant ce que je suis en train de dire. Et c'est là où l'imagination humaine, finalement, eh bien, doit rester pour nous, en tant que chrétiens, sous le contrôle du Saint-Esprit et avec une bonne connaissance de la parole. Parce que le danger, il est peut-être encore plus grave que la précédente tentation. Attention à ceux qui rêvent éveillés, et même des enfants de Dieu, y compris peut-être même ceux qui servent le Seigneur. Attention, restons véritablement les pieds par terre, parce qu'il y en a un qui nous attend. Mais nous avons toutes les promesses merveilleuses et formidables et admirables que le Seigneur nous a faites. Est-ce que nous aurions besoin d'autre chose? Est-ce que nous sommes appelés à finalement, eh bien là, à briller, à régner, ici-bas? C'est de l'autre côté. Nous sommes appelés à refléter la gloire de Christ à travers notre vie, le sel et la lumière. Comprenez? C'est tout à fait différent. Et ne nous prenons pas la tête, parce que le diable, il a aussi toute une stratégie pour nous confondre dans l'orgueil. Satan connaît si bien le cœur, ses secrets et ses complaisances. Et il a fait succomber tant d'hommes éminents avec des nobles intentions et des nobles aspirations. C'est peut-être là justement où est le danger. Et avec d'aussi belles résolutions de servir Dieu, ou d'honorer Dieu et de lui plaire. La frontière est très, très, très mince. Je dis que l'adversaire a le pouvoir d'élever ses favoris. Oui. De les élever. Et nous voyons que la tentation, qui est une tentation de grande dangerosité que celle qui est là, car elle répond si bien aux aspirations naturelles, c'est-à-dire les aspirations charnelles. Un chrétien est un homme spirituel et non pas un chrétien psychique. Vous comprenez la différence? L'âme n'a jamais répondu aux attentes de Dieu. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en vérité, en esprit, en vérité. Faisons attention à ça. Parce que le monde religieux exploite l'âme. Et l'âme humaine est capable de dire et de faire, de créer, de composer des choses admirables, naturellement. Mais attention, l'esprit c'est une autre dimension. Et là il faut faire attention, parce que les doctrines qui courent un petit peu dans le monde, et même pénétrant dans notre monde, à nous, notre monde évangélique, il y a d'une grande subtilité. Hein. Faisons bien la différence entre le psychisme et le spirituel. Nous avons besoin véritablement de rester sur la parole, et que cette parole sur laquelle nous voulons demeurer soit éclairée par le Saint-Esprit. Parce qu'autrement, nous pouvons tomber dans un légalisme étroit qui tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ou alors nous tombons dans une licence ou libéralité qui n'a plus rien de, finalement, eh bien, à honorer Dieu. Elle nous fait prendre cette tentation, elle nous fait prendre notre volonté pour la volonté de Dieu. C'est pour ça que certains disent, eh bien, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu ça fait ceci, etc. On en parlait encore dernièrement, et ça c'est d'une grande subtilité. Faut pas confondre les choses. Et je vais terminer d'ici un instant Comme nous l'avons fait précédemment, nous allons voir le raisonnement, justement, derrière la chose. Dieu a mis en chacun de vraies ambitions, au sens noble, hein. Mais la réaction est de craindre que Dieu ne les réalise pas, ou qu'il ne veuille pas les accomplir, ou encore qu'il est insuffisant pour les accomplir. Il y a des choses que Dieu nous a données. Et qu'à un moment donné, parce qu'à cause du temps qui passe et de l'attente, et puis de la souffrance qui va avec, eh bien, nous disons, mais peut-être que Dieu ne veut plus, ou il ne veut pas, ou peut-être qu'il ne peut pas. Alors, on est là pris dans une confusion, hein. Ouais. Vous savez, ce pauvre lépreux qui est là, que Jésus voit, et dont Jésus va prouver son amour en le touchant. Toucher un lépreux, faut quand même être assez audacieux. Et cet homme va lui demander, et cet homme va entendre Jésus lui dire, mais il lui parlera plutôt, je suis en train de me remémorer la situation, le contexte, si tu veux, tu peux me rendre pur. Mais moi je voudrais vous dire que quand Dieu a fait une promesse et vous a fait une promesse, Dieu le veut et Dieu le peut. Il faut croire aux deux. Voilà. Et quelquefois nous en arrivons à un moment, à une extrémité, en disant, mais est-ce que Dieu veut, est-ce que Dieu peut? Mais Dieu peut les deux, parce qu'il vous l'a dit. Alors le diable va vous dire autre chose. Or, là, dans le contexte, le tentateur propose des solutions, finalement, qui vont aller dans le sens de la chair. Une nécessité, c'est que nos ambitions doivent être sanctifiées. Elles sont remises tous les jours devant Dieu. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie mes dispositions. C'est toi qui les as mises, mais ne permets pas qu'elles se corrompent et que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Ça, vous connaissez ça aussi. Alors il y a un choix de notre part qui s'impose. Ce choix, Jésus l'a fait, puisqu'il a été tenté sans commettre le péché. Il l'a fait. C'est que lui, comme nous, nous devons acquiescer à tout ce que Dieu renouvelle en nous de bon et de bien. Et surtout renoncer aux aspirations que nous sentons charnelles se réveiller, ou de vouloir à tout prix réaliser nos ambitions avec éclat pour être vu, complimenté et toutes sortes de choses, de recourir à une sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu mais la sagesse du monde, et de gagner la faveur populaire. Jésus aurait pu vous dire devenir le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mais au sens où le diable voulait. Mais il n'aurait jamais été le roi des rois de la terre et du ciel et de l'univers entier. Gagner la faveur et également obtenir le concours des grands. Si tu te prosternes, tu m'adores. Vous rendez compte, Jésus dans un palais d'ivoire, Jésus régnant sur le monde, ça c'est une vue finalement d'un certain christianisme. Mais c'était oublié que Jésus devait passer par l'humiliation, devait passer par la crucifixion, et devait finalement ressusciter. Et ça, les Juifs ne pouvaient pas le comprendre, parce qu'ils ne voulaient pas le comprendre, naturellement. C'était trop humiliant, un Christ comme ça. Ou alors nous devons choisir la voie de l'abaissement, c'est-à-dire de la croix. D'un côté, la glorification humaine, mais où il n'y a pas Dieu. Ou alors, de l'autre, la marche longue et difficile avec l'assentiment divin qui n'est pas forcément une route facile, une route simple, mais avec aussi en prime une opposition déclarée des hommes et de ses luttes qui s'en suivent. C'est pour ça que Paul dira de combattre le bon combat de la foi. Comprenez, il y a toute une stratégie derrière. Que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, Paul le disait aux Éphésiens. Et je crois que l'Église a besoin plus que jamais d'avoir l'illumination dans ses yeux intérieurs. Parce que les subtilités sont là. Alors il faut savoir résolument qui nous servons et qui nous voulons adorer. En tous les cas pour nous, nous voulons servir le Seigneur et l'adorer lui et lui seul. Si donc tu te prosternes devant moi et que tu me serves, finalement, voilà la proposition du diable. C'est la bénédiction, celle-là, si on suit la conduite du diable, je dirais que c'est la bénédiction qui appauvrit et qui est suivie de beaucoup de chagrin, contrairement à ce qui nous est dit dans un autre texte de la Bible qui est positif. Alors, première tentation, deuxième tentation, Dieu voulant la prochaine fois, au mois de septembre, nous parlerons de la troisième tentation qui a un caractère non plus physique, moral, mais spirituel, et nous parlerons également de cette ultime tentation, puisque quand vous lisez le texte ou un texte, je ne sais plus si c'est celui-ci, il nous est dit que le diable laissa jusqu'au temps favorable, et nous verrons justement la lutte de Jésus à Gethsémané. Voilà. Heureusement, Jésus a répondu oui. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous enrichisse de sa parole. Et par-delà les paroles qui ont été échangées, qui ont été prononcées, moi je demande et nous allons demander que ce soit le Saint-Esprit qui continue son œuvre à nous enseigner et à nous faire grandir et nous amener d'être des hommes faits en Jésus-Christ, c'est-à-dire matures. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous nous approchons de toi en étant tout à fait conscients, Seigneur, que tu n'es pas venu sauver des anges, mais tu es venu sauver des hommes, précisément des hommes. Et quels hommes étions-nous ? Quel homme étais-je auparavant ? Oui, Seigneur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, parce que ta parole nous réconforte quand tu nous dis que tu n'as pas été chercher les fortes, mais les faibles, que tu n'as pas été chercher les riches, mais les pauvres. Oh, tu n'as pas regardé, Seigneur, en effet, à tout cela. Mais nous voulons te remercier, Seigneur, parce que le grand défi du royaume de Dieu, c'est de mettre en gloire ce qui n'est pas glorieux, et qui, quelque part, en effet, a été, eh bien là, lavé par le sang de Jésus-Christ, qui est passé, Seigneur, par la rédemption, Seigneur, en Christ. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et c'est bien cela, Seigneur, ce monde dans lequel nous vivons, un monde qui s'élève, un monde qui s'approprie, un monde violent, un monde cruel, un monde, Seigneur, où il n'y a que l'homme, l'homme et l'homme, encore et toujours l'homme. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que la rédemption, elle vient de Jésus à la croix du calvaire. Te bénissons, Seigneur, de savoir que nous avons quelqu'un qui est notre chef, notre frère, notre roi, qui est celui qui a marché dans toutes les tentations que nous pouvons connaître hier et aujourd'hui, et qui a été tenté en toutes choses, et qui n'a commis aucun péché. Seigneur, nous en sommes loin, mais néanmoins, nous sommes sur ce chemin. Nous sommes sur ce chemin et nous voulons te réitérer notre volonté que nous voulons véritablement. Eh bien, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacune de nos vies. C'est bien toi qui nous as dit que tu crées en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Oui, Seigneur, selon ton bon plaisir. Seigneur, dans le nom de Jésus, mets ton bon plaisir dans nos vies. Au nom de Christ, nous te le demandons ce matin à nouveau. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.